J'ai l'impression de l'être présent avec un enfant.
Bonsoir. Campagne nationale de sensibilisation au civisme fiscal, la Direction générale des impôts DGI recommande à tous les opérateurs économiques et aux citoyens vivant en RDC de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux en payant impôts, taxes et redevances. Et ce qui motive la démarche de la DGI est que faire pour que les opérateurs économiques et les citoyens s'acquittent régulièrement de leurs obligations fiscales. Trois invités participent à cette émission. Vincent Tabois-Kanyampa, directeur général adjoint de la Direction générale des impôts. Monsieur Tabois, Vincent, bonsoir.
Bonsoir.
Modeste Baati-Loukwebo, député national de la majorité et président du groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée nationale, également opérateur économique. Honorable Baati, bonsoir.
Bonsoir, Alain.
Médard Moulangala Lokabwanga, député national de l'opposition et rapporteur de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale, lui est en ligne. Honorable Moulangala, bonsoir.
Bonsoir, Radio Okapi.
Voilà, chers auditeurs, vos réactions nous sont déjà parvenues. Qu'est-ce qui tout Julien de Gonan en vous? La réussite de cette campagne nous ramène à la question de savoir si réellement le rôle de l'impôt est de couvrir les charges publiques. Où va le peu d'argent que l'État perçoit, car la bonne gestion de cet argent constitue la première étape pouvant convaincre les contribuables. Éric Moussimbois, depuis le démarrage des activités des directions provinciales de recettes, nous n'avons pas été informés sur les taxes qui sont de la compétence de la DGI et celles des directions provinciales. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le 4 juillet dernier, le chef de l'État Joseph Kabila a invité le peuple congolais, où qu'il se trouve et quoi qu'il fasse, de s'inscrire dans le civisme fiscal. C'était lors de son discours à la nation à l'occasion de l'attente du point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés IPPPE. Pour Joseph Kabila, je cite, nous devons tous, sans distinction aucune de la base au sommet, personne physique et morale, nous acquitter honnêtement et à terme échus de nos obligations fiscales et de toute autre rédévance due à l'État. De leur côté, les régies financières ont amorcé la campagne nationale de sensibilisation au civisme fiscal. Plus de détails sur cette campagne lancée par la DGI avec vous, Kelly Côté.
Selon des sources de la Direction générale des impôts, cette campagne est une invitation que la DGI lance en direction des membres des corporations d'affaires et associations d'accomplir en tant que citoyens et en faisant la RDC comme leur seconde patrie, leurs obligations en matière de paiement de droits, taxes sur redevance et impôts. La DGI souligne que la présente campagne nationale de sensibilisation au civisme fiscal offre l'opportunité aux services mobilisateurs de recettes de communiquer avec la population pour changer sa perception et rencontrer d'autres facteurs pouvant expliquer l'incivisme fiscal en RDC de manière à repartir sur de nouvelles bases après l'atteinte de la RDC au point d'achèvement de l'initiative Pays pauvres très endettés. D'après le directeur général de la Direction générale des impôts DGI, cette campagne devra aboutir à l'amélioration du niveau de consentement de la population congolaise à l'impôt, ce qui se traduira par un accroissement du nombre d'assujettis s'acquittant régulièrement de leurs obligations fiscales et une augmentation conséquente des ressources publiques de manière à permettre au gouvernement de financer le programme de reconstruction de la RDC et améliorer le bien-être de la population. Signalons que cette campagne de sensibilisation est prévue pour une durée de 6 mois, a souligné le directeur général de la Direction générale des impôts.
Merci, Kevin Couté. Vincent Tabois-Kanyampa, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la Direction générale des impôts. Qu'est-ce qui motive cette démarche de la DGI?
Je ne sais pas si vous avez très bien suivi ce qui a été rapporté par rapport à ce que le directeur général avait dit autrefois. En fait, c'est pour amener toute la population, au moins la population qui est redevable des impôts, au civisme fiscal, de manière à ce qu'il y ait un consensus autour du consentement à répondre aux obligations fiscales et aux obligations de paiement d'impôts.
Bon, ça fait quand même partie des tâches quotidiennes normales de la DGI, mais pourquoi fallait-il attendre l'impulsion du chef de l'État?
En réalité, les efforts ont commencé, et comme vous le saviez, le problème de l'impôt, c'est un problème qui concerne tout le monde. Il n'y a pas de catégories privilégiées. C'est ainsi que le président de la République a dû lancer le message. Et ce qui est vrai aussi, c'est ce que nous disons toujours. Vous savez, à un certain moment, quand vous faites une analyse tout à fait objective, vous vous rendez effectivement compte que l'impôt a été relayé au énième plan par rapport au civisme fiscal. C'est ainsi que tous les efforts aujourd'hui sont conjugués. Et je crois dans cet élan-là, il serait tout à fait indiqué que les efforts soient plus étendus, même au niveau des écoles, même au niveau des universités. En fait, c'est pour dire simplement que c'est un problème qui concerne tout le monde et la Direction générale des impôts s'étant déjà préparée en conséquence de manière à bien affronter la campagne de civisme fiscal.
Alors, puisqu'on parle de civisme fiscal, à quel moment l'incivisme fiscal a-t-il élu domicile dans ce pays?
Je crois qu'il faudrait peut-être situer l'incivisme fiscal par rapport à ce qui a porté à l'époque la Gécamines dans le recette de l'État. Au point que cet apport qui a été très substantiel, vous vous imaginez, nous qui avons étudié dans des universités où c'est l'État qui prenait totalement en charge le frais académique. Et par rapport à ça, nous sommes de ceux qui pensent qu'à l'époque, c'est la Gécamines qui contribuait pour une grande part au budget de l'État, faisant en sorte que l'impôt au niveau de citoyen n'a pas été si bien collecté.
Donc, en d'autres termes, l'État a lui-même préparé le lit à cet incivisme fiscal.
En fait, là, c'est là qui serait peut-être le cause. Et aujourd'hui, nous constatons pratiquement, nous sommes devant ces constats. Les constats tels que l'incivisme fiscal a pratiquement élu domicile et tous les efforts doivent être conjugués de manière à ce que nous puissions atteindre un certain niveau de civisme fiscal.
Alors, il y a cet auditeur honorable au dernier Paulin de Kisangani en province orientale qui dit « Tout en saluant la campagne de civisme fiscal, je tiens à préciser que les régies financières sont improductives à cause des mots suivants, tribalisme, trafic d'influence, politisation à outrance et comportement antipatriotique de certains gouverneurs et commerçants. » Vincent Cabois.
Merci. Par rapport à cet auditeur de Kisangani, je crois pour gérer l'impôt, les efforts doivent être plus étendus. Et déjà au niveau de la Direction générale des impôts, nous sommes aussi conscients que nos efforts doivent être plus orientés aussi vers notre personnel. Et dans cette gestion de l'impôt, je crois chaque camp a sa part. Et vous allez même vous rendre compte que quand nous parlions au mois de mars, quand nous parlions du pacte de doublement des recettes, c'est en fait une conscientisation de toutes les parties qui sont impliquées dans la gestion de l'impôt. Chacun de son côté ménage de manière à ce que le résultat soit plus substantiel. En fait, par rapport à toutes les critiques qui entourent la gestion de l'impôt, c'est vrai, il y a des parts. Chacun doit s'assurer effectivement quelle est ma part de responsabilité par rapport à telle ou telle pratique. Et ce qui est vrai chez nous, nous en sommes conscients. Raison pour laquelle, à notre niveau, nous combattons la fraude et la corruption.
Honorable Modeste Bahati, vous êtes député national, président du groupe parlementaire des indépendants à l'Assemblée nationale, aussi opérateur économique. Comment vous avez accueilli le lancement de cette campagne de civisme fiscal?
Bon, d'abord, je dois dire que c'est une bonne initiative parce qu'il faut à tout moment rappeler aux citoyens quelles sont ses obligations. Mais je me dis aussi qu'il faudrait que cela soit accompagné de méthodes, d'une certaine méthodologie. C'est-à-dire que, pour être plus concret, il ne suffit pas de parler pour que les choses changent. Je ne pense pas que le fait de parler du matin au soir, que voilà, vous êtes invité à payer vos impôts, que cela puisse apporter un changement substantiel. Il a été démontré que ces questions-là sont liées d'abord à la culture, aux habitudes, mais aussi au système de gouvernement et à la présence de l'État, si on peut parler d'un État au vrai sens classique. C'est-à-dire que là où les gens craignent la loi, d'enfreindre la loi, la crainte du gendarme, cela peut arriver à changer les gens effectivement. Parce que sans mesure coercitive, je pense que le fait de lancer la campagne, c'est vrai, c'est un éveil, c'est à encourager, j'encourage, mais je doute fort que cela puisse avoir un impact. Et pour être plus concret, j'aurais voulu qu'on puisse instaurer un système au niveau des régies financières. Je crois qu'à la DGRAD, c'est déjà le cas. Il y a une sorte de task force, une sorte de police là, qui suit, une police interne au ministère qui suit les opérations au niveau de la DGRAD. Je pense qu'il faut qu'on le fasse aussi au niveau de la DGDA et de la DGI, de manière à ce que chacun sente que, effectivement, c'est comme s'il y avait un détective privé derrière lui, parce que finalement, il faut en arriver là.
Dans la contrainte.
Oui, nécessairement. Deuxième considération, c'est que, comme l'a si bien dit le DGA de la DGI, c'est lié aux mentalités, aux comportements. Le fait que les gens étaient habitués à un état qui est providence, qui donne un peu de tout, ben, on se complaît, on croit que tout devrait venir de l'État. Prenez l'exemple de nos étudiants. Moi, je suis professeur. Je dis à mes étudiants, mais vous êtes quand même, vous avez accès à l'information par l'Internet. Cliquez sur les autres universités, Moncton ou Montréal ou n'importe laquelle, ILB. Voyez combien on fait payer aux étudiants là-bas. Et nos étudiants ici, quand vous leur demandez $100, ils sont quasiment incapables de les payer. Mais lorsqu'ils terminent et qu'ils doivent se payer des habits pour la collation de grade, organiser des fêtes, ils peuvent débourser facilement $500 à $1000. Mais c'est pour dire qu'il faut que, quelque part, il y ait une certaine coercition. Parce que nos étudiants, ils sont prêts à payer 10 000, 15 000 de frais d'études si on leur donnait la bourse pour accéder à ces universités étrangères. Mais ici, chez nous, il est incapable de payer $200.
Mais on l'a suivi tout à l'heure, honorable, hein, vous, c'est vous, politicien, qui est aussi pour la plus grande part hein, dans cet incivisme fiscal. Politicien, bon. Opérateur économique à la fois, c'est souvent vous qui êtes pointé du doigt.
Je pense que là, il faut tout simplement faire la part des choses. Je ne pense pas qu'il y ait un homme politique qui dirait que voilà, parce que moi je suis homme politique, je ne peux pas payer mes impôts. Et si le service fiscal ne prend pas ses responsabilités en sanctionnant, en appliquant la loi telle qu'elle existe, c'est de sa faiblesse parce que, à mon avis, au contraire, l'homme politique a très peur des services fiscaux. Lorsque quelqu'un vient chez vous et qu'il demande que vous puissiez payer, en tout cas, vous avez tout intérêt à vous mettre en ordre parce que si cela sort sur la place publique, vous êtes vite sali. En tout cas, ça, c'est ma conception à moi. Je sais qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelait des intouchables et des gens inaccessibles. Je pense que cette période-là, elle est en train de passer, elle fait déjà son histoire.
Honorable Mida Ramulangala Lokawanga, vous êtes député national de l'opposition et rapporteur de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. L'honorable Bahati émet certains doutes quant à l'impact de cette campagne. Comment vous l'avez reçu?
Bon, écoutez, je crois que je rejoins quelque part le collègue Bahati dans son analyse. Mais avant cela, je voudrais, si vous le permettez,
faire
un commentaire d'ordre général et ensuite aborder la question sous examen. Le vrai problème que je vois en matière d'impôts, c'est que dans notre pays, la culture de rue de l'État est telle que l'impôt n'est pas au niveau où il devrait être. C'est ça la grande problématique. Et moi, je m'attendais à ce que notre chef de l'État a parlé, qu'il puisse donner une indication, une feuille de route sur la manière dont la politique générale est organisée, en termes de TVA qu'on a mis en place, d'organisation entre les provinces et l'État central, du objectif sectoriel, plan de mise en œuvre. Je n'ai pas vu tout cela, et j'ai au contraire constaté qu'on a lancé la campagne de civisme, la DGI s'est mise en marche, et on a choisi peut-être la facilité en s'attaquant directement aux populations en termes de leur contribution en termes sous les impôts, et peut-être quelque part aussi en harcelant les grands contribuables qui, depuis longtemps, sont les principaux contribuables dans ce pays. Donc, il y a d'abord un problème d'approche. L'approche qui a été faite ici, à mon avis, est partielle. Elle aurait dû, à mon avis, prendre en compte la vision générale pour nous dire comment nous voulons changer la structure des revenus de l'État. Et à partir de là, il y a un programme précis de mise en œuvre et qui s'attaque à chaque secteur. Cela, on n'a pas vu ce moment. Maintenant, si on prend les réactions de la population, moi, je crois qu'il y a la crainte de la population à deux niveaux. Le premier niveau est de dire qu'il y a quelque part une hésitation, un doute, lié au fait qu'on n'est pas toujours convaincu de l'utilisation de ces ressources. Donc, il y a un problème de gouvernance qu'il faut absolument résoudre. Deuxièmement, la population craint aussi le harcèlement dans un contexte où elle est paupérisée. Le point d'achèvement, on en parle, il a été atteint. Mais le point d'achèvement doit avoir un impact perceptible dans l'assiette et dans la poche des citoyens. Si on ne sent pas cet impact-là, alors je me demande quelle a été la raison pour laquelle on a dû demander à toute la population de pouvoir se serrer, de pouvoir attendre, de pouvoir repousser ses besoins pour que nous puissions, d'une manière générale, atteindre son achèvement. Donc, pour moi, si je dois me résumer dans mon intervention, je dis simplement ceci, j'aurais souhaité, moi, d'avoir d'entendre de la part de haute autorité de la République la politique générale en matière des impôts, le programme d'action, les politiques sectorielles, le budget, la mise en œuvre, ça, j'aurais voulu avoir cela. Ce qui est fait, on doit le faire, cela est vrai, mais à mon avis, ce n'est qu'une partie des choses qu'il faudrait faire, des mesures qu'il faudrait prendre au niveau gouvernemental pour pouvoir faire en sorte que dans notre pays, la structure de revenus de l'État change et jette dans notre pays d'une manière telle que l'impôt devient la source principale. Et dans ce qui est fait maintenant, on ne nous dit pas de quelle manière nous allons pouvoir modifier la structure des revenus de l'État pour faire de l'impôt le revenu principal. Et cela m'inquiète un peu.
Donc, à bien vous comprendre, honorable, vous êtes aussi pessimiste.
Je dis qu'en termes de priorité, en termes d'approche, j'ai une difficulté sur le plan global. Ce que la DGI fait maintenant, elle doit le faire, ça peut se comprendre. Mais de manière globale, on ne voit pas très bien l'orientation qui est donnée pour que sur le plan des objectifs de la politique fiscale du pays, on puisse changer la structure, on puisse élargir l'assiette fiscale. C'est ça que moi j'aurais voulu entendre comme message de la part des responsables, de voir de quelle manière ils vont agir.
Merci.
Ce qui a été fait ici n'est qu'un des aspects importants, bien sûr, de la politique fiscale, mais ce n'est pas l'aspect essentiel. L'aspect essentiel, ce sont ces mesures importantes à prendre pour définir la politique fiscale dans le pays,
merci,
la mettre en œuvre avec un budget bien identifié, des mesures concrètes, un programme d'action bien connu.
Merci.
C'est ça que moi j'aurais voulu entendre, mais cela étant dit,
merci,
donc, si on fait son travail de collecte, pourquoi pas.
Merci honorable monsieur la DGA Vincent Cabois Kanyampa, vous allez réagir hein, au pessimisme des deux députés, mais en plus il y a cet auditeur Théo Chamba qui est à Kamanga au Kassai Occidental qui dit nous demander de nous acquitter de nos devoirs, c'est bien, mais le mieux serait de nous dire où vont tous les fonds que la population a payés depuis 50 ans, car les réalisations ne sont pas visibles sur le terrain, il n'y a que les agents des régies financières qui ont un train de vie meilleur que ces contribuables aussi, il faut diminuer le taux d'impôt, car trop d'impôt tue l'impôt. Monsieur Vincent Capot.
Merci. Je voudrais réagir par rapport à trop d'impôt tue l'impôt. En réalité, il est tout à fait indiqué pour une administration fiscale comme la nôtre, de temps en temps aussi de révisiter la législation fiscale. Et par rapport à ça, nous nous sommes inscrits dans cet élan-là. Je voudrais même vous annoncer qu'au moment où nous parlions, nous sommes en contact avec CESOMO pour voir dans quelle mesure nous pouvons proposer au gouvernement un projet de loi sur le barème. Et je voudrais aussi dire, parce qu'en fait la question qui a été posée sur où vont les fonds collectés par la Direction générale des impôts, je crois que ce n'est pas la tâche de la Direction générale des impôts d'affecter ces ressources. C'est-à-dire, à mon avis, c'est une question qui ne me concerne pas. Mais je reviens plutôt par rapport à ce qu'il a dit en dernier lieu, par rapport à l'enrichissement des agents de l'administration fiscale. Et je crois à notre niveau, ça ne sert à rien dans la vie de faire les constats. Mais ce qui est vrai, c'est de prendre des dispositions pour combattre des abus éventuels. Et par rapport à ça, vous savez, généralement, s'il y a triché au niveau des recettes fiscales, parce que nous en sommes conscients, c'est généralement, ça glisse soit au niveau du contrôle fiscal, soit au niveau du recouvrement. Et par rapport au recouvrement, nous sommes dans une politique d'informatisation de nos services de recouvrement et même des logiciels. En ce qui concerne les petites structures, parce que les grandes structures bénéficient déjà des logiciels pour permettre une gestion rationnelle de l'impôt. Mais quant au contrôle fiscal, et c'est ça notre lutte de chaque jour, parce qu'en fait, nous nous inscrivons pour une logique qui voudrait bien qu'il y ait la traçabilité des opérations de contrôle fiscal. Et cela est visible parce qu'aujourd'hui, nous avions déjà mis en place et demandé au service le bon usage des guides que nous avions mis en place et le contrôle sur pièce qui est fait en dehors du personnel qui est appelé à assurer les contrôles. Je voudrais simplement dire qu'il y a des efforts au plan interne qui sont en train d'être faits de manière à ce que s'il y a des abus, que nous puissions les annuler, sinon les contenir et les diminuer davantage.
L'honorable Bahati a émis des doutes hein, quant à l'impact de cette campagne. L'honorable Moulangala pense qu'il y a eu une mauvaise approche qui a été appliquée.
Merci beaucoup. Je suis conscient et je vous l'ai dit. Au Congo, l'impôt ne passe pas si bien dans nos oreilles. Je voudrais illustrer ça par certains cas. À l'école primaire, à l'école secondaire, on ne parle pas d'impôt. Et rassurez-vous, s'il y a parfois des campagnes électorales, on parle moins de l'impôt. Et je crois que la première démarche serait de vulgariser ces dispositions fiscales. Et nous sommes dans cet élan-là. Et aujourd'hui, la vulgarisation s'impose comme première approche. C'est vrai, j'ai suivi l'honorable Bahati, que je respecte bien, parlant peut-être que quand il disait « parler ne suffit pas ». Mais je me dis, pour faire passer le message, il faut parler. Et aujourd'hui, le message des dispositions fiscales ne passe pas tellement aux oreilles de tout Congolais moyen. Et nous nous inscrivons dans cet effort-là pour vulgariser davantage. Et c'est ça même la raison d'être de notre présence dans ces studios.
Honorable Bahati, je vous vois hocher religieusement la tête. Êtes-vous apaisé?
Bon, je dis que je me fais bien comprendre en disant que la campagne, c'est bon. Mais je disais aussi que il faut réveiller de temps en temps les contribuables. Mais je disais que l'impact, peut-être on ne va pas le sentir d'emblée, et que l'impact sera plus significatif par rapport aux attentes. Et il est vrai que, comme je l'ai dit, l'impôt doit reposer sur l'élément confiance. C'est-à-dire celui qui paye l'impôt, à partir du moment où il sait que cet impôt-là va servir à quelque chose, et ce qui appelle en fait la bonne gouvernance, comme on l'a dit ici, la traçabilité et surtout la transparence. Parce que quand vous regardez l'exécution du budget de l'État, on dirait qu'il y a un mystère autour du budget de l'État. Si nous ne prenons qu'un petit exemple de 3 milliards que nous réalisons en recettes internes, l'équivalent de 3 milliards de dollars, mais 3 milliards de dollars, si c'est bien reparti, je crois que la rémunération, qui est la première contrainte, c'est 54 millions de dollars par mois. Ça nous amène à quelque chose comme 162 millions de dollars. Et, non, 760 millions de dollars. Mais après, il y a les autres charges contraignantes. Même si on y incluait la dette, il pouvait quand même rester ne plus que 1 milliard à répartir entre les provinces. Je crois que le problème d'allocation des ressources aux provinces est un problème réel. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous regardez la structure de la population congolaise, vous vous rendez compte que quand même quelque chose comme 80% de la population est dans nos provinces. Et nos provinces, lorsque vous voyez les chefs-lieux, parfois une ville ne compte que 30, 40, 50 kilomètres. Et ça, si on y verse, ne fût-ce que chaque année 50 millions de dollars, il est possible de voir l'impact direct sur la voirie urbaine, sur l'approvisionnement des hôpitaux en médicaments, sur les écoles, et ainsi de suite. Or, 50 millions fois 11, ça vous fait 550 millions de dollars. Et ça, c'est un effort qu'on peut fournir, et à ce moment-là, les gens vont avoir confiance que réellement, l'argent qu'on est en train de payer sert à quelque chose.
Honorable Moulangala, êtes-vous également satisfait?
Bon, écoutez, l'ADGA que je salue par ailleurs a donné quelques mesures qui étaient en train d'être mises en œuvre. J'aurais voulu qu'il fût complet pour qu'on ait une vision globale de l'action qui est menée par notre gouvernement. Je sais qu'il n'est qu'un maillon dans la chaîne, que peut-être qu'il appartient à ses supérieurs pour faire cette démarche-là, mais je reste sur ma soif parce que je voudrais qu'on puisse donner de manière très claire la politique qui est prônée par le gouvernement et de quelle manière elle sera mise en œuvre. Cela étant dit, moi je voulais peut-être faire deux petits commentaires. Le premier par rapport au secteur informel. Je ne sais pas dans ce qui est fait pour le moment par la BGI, de quelle manière ils comptent aborder le secteur informel, qui est le secteur dans lequel pratiquement une grande partie de la population, notamment les femmes, sont actives. Donc ce secteur est important, qu'on doit ramener dans le formel. Je voulais quand même entendre de sa part, dans les situations actuelles, comment ils comptent faire pour aborder ce secteur-là. C'est fondamental parce que c'est ce secteur-là dans lequel la majorité des Congolais est en train d'opérer. Sur cette question-là, je voudrais une réponse parce qu'il ne faudrait pas que l'on puisse avoir une approche, ce qui est comme conséquence le harcèlement indu des populations qui sont actives dans le pays et qui se débrouillent au quotidien pour assurer la survie de leur famille. Donc, sur ce secteur informel-là, notamment des mamans qui sont actives dans ce secteur, je voudrais savoir, dans la campagne actuelle, qu'est-ce qui est prévu, parce qu'en disant que je voudrais m'opposer à toutes mesures qui sont de nature à harceler les populations.
Deuxième observation.
La deuxième observation, c'est par rapport au budget de l'État. C'est un sujet sur lequel je reviens très souvent. Je pense que le texte prévoit qu'au niveau de l'Assemblée, on puisse vérifier l'exécution du budget de manière régulière. J'ai vu que le ministère du Budget a fait un effort, une question sur son site internet, l'information est disponible. Maintenant, il faut que l'Assemblée fasse son travail, que l'on puisse aller au bout des choses et nous assurer que l'impôt collecté est affecté de manière judicieuse et qu'il n'y ait pas, comme on a eu à le déplorer dans le passé, des utilisations qui ne soient pas conformes à ce qui a été prévu par l'autorité budgétaire d'une part, et d'autre part, qui ne sont pas des priorités par rapport au programme qui a été approuvé par l'Assemblée nationale.
Merci.
Voilà un peu les deux questions sur lesquelles je voulais entendre de ma part. Première question est adressée au DGDR.
Merci.
Qui salue par ailleurs. Deuxième question, une question interne à nous députés. Nous devons absolument renoncer à la rentrée parce que
par rapport au budget,
de quelle manière le budget a été exécuté.
Merci honorable. Vos deux questions nous permettent d'aborder directement la deuxième partie de cette émission. Que faire pour que les opérateurs économiques et les citoyens s'acquittent régulièrement de leurs obligations fiscales? Réponse avec Dieudonné Lokadi, directeur général de la Direction générale des impôts. Il est au micro de Jocelyne Moussa Opondé du magazine Écho d'économie.
Il est prévu plusieurs actions dans le cadre de la campagne. Il s'agira dans un premier temps de pouvoir apporter un message, donc ce sera des actions dans la presse, donc au niveau de la radio, de la télévision, pour sensibiliser la population sur le rôle de l'impôt, l'importance de l'impôt, ce qu'on fait de l'argent qu'on collecte. Et il s'agira également de pouvoir expliquer à la population chaque nature d'impôt, quels sont les différents types d'impôts qui sont gérés par chaque structure, comment accomplir ses obligations fiscales. Mais il y aura aussi d'autres actions. Les différents impôts sont organisés de telle manière que le niveau de l'impôt à payer est fonction de la capacité contributive de chacun. Celui qui a un revenu élevé, il paye aussi un impôt assez élevé. Mais celui qui a un revenu faible, il paye aussi un montant faible. En ce qui concerne l'impôt professionnel sur les rémunérations, par exemple, celui qui a un revenu très faible, son employeur retient l'équivalent de 0,5 $. Donc ce n'est pas vraiment très grand chose. Et il est prévu pour les personnes qui n'ont pas d'activité connue, de payer l'impôt personnel minimum. Et là aussi, le montant n'est pas très élevé. Mais ceux qui ont des revenus importants, naturellement, ils devraient contribuer un peu plus.
Vincent Kabouaka-Nyampa, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint de la Direction générale des impôts. Au-delà de la sensibilisation, quelles sont les actions concrètes qui seront posées face à toutes ces mamans, à tous ces jeunes gens, à toute cette population congolaise qui vous suit en ce moment et qui voudrait adhérer à cette campagne de civisme fiscal?
Merci de votre question. En réalité, je crois que nous sommes sur une très bonne piste. La piste qui voudrait que tout commence par une campagne de sensibilisation. Et après, la piste qui suivrait, c'est de voir dans quelle mesure tout ce que nous avions mené comme campagne commence à produire ses effets. Et je crois, comme vous le savez, on passe toujours, toutes les transactions sont faites et toutes les transactions mettent toujours en relation deux ou plusieurs personnes. Ça signifie en réalité, au niveau de la Direction générale des impôts, nous sommes déjà prêts au niveau de la Direction générale des impôts par rapport à toutes les activités que nous menons autour d'une banque de données. De manière à ce que, quand nous aurions à collecter les informations, parce qu'en fait la collecte a déjà commencé par rapport à la direction du contrôle fiscal qui a la charge de collecter les informations, quand nous collectons les informations auprès des principales sources, comme l'OFIDA, comme l'OCC, et auprès de gros importateurs, et même nous allons vers des gros clients et des gros fournisseurs, des principaux contribuables que nous aurons. Nous aurons à travers ça à analyser ces données et à tirer les contribuables défaillants. Et par rapport aux contribuables défaillants, nous sommes bien obligés de s'assurer de leur localisation. Et je crois que c'est là où il y a aussi de problèmes par rapport aux opérateurs économiques qui émettent des factures. L'idéal serait, en émettant les factures, il faut s'assurer que les adresses ont été aussi bien reprises pour toutes les transactions, que ce soit au niveau de l'importation ou de vente au plan local. Il faut que toutes les indications soient inscrites et pour permettre à la Direction générale des impôts de lister les opérateurs non en règle.
L'honorable Moulangala a évoqué le secteur informel. Comment attirer le secteur informel, cette maman qui vend ses pains au coin de la rue, ce jeune homme qui trimballe ses parachutes sur la tête, comment attirer toutes ces personnes?
Alors je crois qu'il faut quand même faire une différence, parce qu'au niveau de la Direction générale des impôts, nous gérons ce que nous appelons les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises relevant de la première catégorie, ainsi que les petites et moyennes entreprises relevant de la deuxième catégorie.
C'est-à-dire,
en fait, le plus petit contribuable que nous gérons, c'est les petites et moyennes entreprises relevant de la deuxième catégorie. Ça signifie celui qui a un chiffre d'affaires annuel au moins de 10 000 dollars américains. Et en deçà, si c'est moins de 10 000 dollars américains, ces contribuables sont gérés par la ville et par le province. Ça signifie au clair, le contribuable que vous citez, comme cette maman qui vend des pains, celle-là relève de la ville et des provinces.
Voilà, honorable Bahati, à ce niveau-là, il y a aussi beaucoup de problèmes. Les taxes qui sont de la compétence de la province, du gouvernement, il y a même un auditeur qui l'a relevé. Comment vous abordez cette question?
Bon, je crois que tout est réglé par la loi. C'est un problème d'application de la loi. Je sais qu'il y a des conflits. Lorsqu'on considère, par exemple, au Nord Kivu, j'ai appris qu'on a créé une structure provinciale de recettes fiscales et autres. Mais cette structure empiète sur les attributions de la Direction générale des recettes administratives, domaniales et de participation. Je crois que ce sont des questions qui demandent aussi une concertation permanente. Lorsqu'il y a une mauvaise application, bon, au lieu de s'en tracuser, je pense que les autorités au niveau national et au niveau provincial peuvent se mettre autour d'une table pour dire, conformément à la loi, cette taxe, c'est vous qui devez la percevoir, et celle-là, c'est nous, et ainsi de suite. Mais je crois que au-delà de tout ce que nous disons là, il reste quand même un problème entier en ce qui concerne le comportement du citoyen congolais lorsqu'il s'agit de s'acquitter de l'impôt. C'est-à-dire que dans sa conception initiale, l'homme d'affaires congolais, le contribuable, il n'intègre pas d'emblée que dans ce que je vais gagner, il doit y avoir une part de l'État. Et même lorsque on vous communique un salaire brut, vous avez tendance à croire que vous l'aurez net à la fin du mois. Lorsqu'on vous explique par la suite qu'il y a eu des retenues au titre d'impôt, vous commencez à grincer les dents.
Alors, le citoyen soit conscient et qu'il adhère à cette campagne.
C'est-à-dire que j'ai dit que la campagne c'était une bonne chose, mais il faut qu'elle soit permanente. Deuxièmement, il faut des mesures de coercition parce que l'homme n'agit pas de lui-même s'il ne sent pas qu'il y a le gendarme, le policier ou une contrainte quelconque. Troisièmement, il faut que le contribuable soit rassuré que réellement, en se délaissant d'une partie de son revenu, que ceci sert à la communauté. Si cela n'est pas le cas, en tout cas, à la longue, bon, ça devient une sorte de méfiance.
Une très brève réaction que je vous demande, honorable Baaki, à Arnold Ombeni Mungo de Bukavu, ce qui vous dit, pour une bonne sensibilisation au civisme fiscal, la DGI doit d'abord commencer par les autorités politiques qui ont de grands revenus. Il est inutile de sensibiliser les travailleurs autres que les hauts dignitaires du pays, car ils payent déjà leurs impôts sur le revenu et les commerçants toutes sortes de taxes.
Oui, je crois qu'il a parfaitement raison. L'exemple doit venir d'en haut. Hein. Et là, effectivement, j'ai vu qu'on a tenté de faire des retenues sur les émoluments du personnel politique. Il y a eu un tollé général. Je pense que dans le budget qui est en élaboration, on doit clairement déterminer quelle est la part qui revient au personnel politique au titre de rémunération et qu'est-ce qu'il doit payer au titre d'impôt. Si cela est connu à l'avance, je crois que ce qui a gêné, c'est que c'était une mesure qui était tombée brusquement au milieu de l'exercice fiscal. Et or, les gens avaient déjà quand même planifié leur budget. Mais cette fois-ci, si on le fait dès maintenant que le budget est en train d'être élaboré, il n'y aura pas de surprise. Je suis tout à fait d'accord que l'exemple doit venir d'en haut et qu'il faut frapper effectivement les gros revenus, les revenus du personnel politique pour enfin s'occuper de l'autre catégorie de la population.
Honorable Moulangala, l'exemple doit venir d'en haut, frapper les revenus de tout le personnel politique, en commençant par exemple par les députés que vous êtes.
Je crois que ça c'était acquis. Je ne vois pas pourquoi les députés ne devraient pas s'acquitter de l'obligation fiscale. Ça c'était acquis à mon avis. C'est une question de mise en œuvre et de voir de quelle manière cela va être fait. Mais pour moi, ce n'est pas une question qui doit être débattue, une question qui, à mon avis, a déjà trouvé sa réponse. Deuxièmement, je pense quand même que lorsque la DGI a répondu, ça confirme ma crainte qui est laquelle. Il faut au départ une politique générale qui doit être définie. Il ne faudrait pas qu'on ait l'impression qu'une seule structure agit, et au niveau des provinces notamment, on ne sont pas impliqués dans cet effort-là. Donc, vous voyez bien que la préoccupation est réelle, que quelque part, il faut d'abord qu'on nous montre sous le plan général ce qu'est la politique. Sinon, l'action qui est menée de manière sectorielle par la DGI, même si elle peut être bonne, elle doit aussi être intégrée de manière globale à d'autres échelons parce que tout le monde est concerné par l'impôt. Mais cela étant dit, j'espère que au niveau qui convient, notamment de ma ville et des provinces, j'aurai ma réponse en ce qui concerne le commun des mortels, le commun des Congolais. Parce que, comme vous le savez, le secteur informel est un secteur qui est très important dans notre pays et dans lequel la majorité des Congolais sont impliqués. Il faut qu'on nous dise dès maintenant de quelle manière on va les traiter. Il ne faudrait pas que nous acceptions n'importe quel traitement parce que on doit trouver une solution sur le plan des recettes de l'État. Non, il faut qu'il y ait une politique clairement définie, bien comprise, débattue, et qu'on puisse assurer qu'il n'y a pas un harcèlement inutile du peuple qui a déjà beaucoup souffert dans l'atteinte du poids d'achèvement.
Vincent Caboa, il y a aussi certaines pratiques, hein, par exemple quand l'État accorde certaines facilités à certaines ONG, on sait comment ça fonctionne, il y a des ONG qui n'en sont pas, mais créées de toutes pièces et qui bénéficient d'exonérations, il y a des régimes spéciaux, spécifiques pour les entreprises minières, les hydrocarbures, n'est-ce pas, il manque à gagner aussi.
Vous avez raison de le dire, apparemment c'est un manque à gagner, comme vous le dites. Mais ce qui est vrai, il faut voir quels ont été les effets produits par ces mesures. Vous savez, aujourd'hui, une société comme Vodacom qui doit s'installer, vous lui accordez des exonérations au titre d'impôt sur les bénéfices. Mais ce que Vodacom va vous ramener au titre d'IPR, d'impôt professionnel sur les rémunérations, d'impôt sur le chiffre d'affaires, ce qui est Vodacom doit ramener chaque mois, c'est plus important que ce qu'on aurait consenti comme effort au niveau des exonérations accordées. En fait, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a toujours un calcul. Il y a toujours un calcul qui est fait pour que les exonérations qui sont accordées, comparativement aux résultats attendus de ces exonérations, que ces résultats soient plus importants. Parce qu'en réalité, l'impôt n'a pas simplement pour rôle de drainer les recettes au niveau de l'État. Mais l'impôt assure aussi un équilibre économique. L'impôt aussi assure un équilibre au niveau de certains comportements. Par exemple, si aujourd'hui on parle de droits d'accise, en fait, les droits d'accise viennent réguler un certain comportement.
Alors, nous avons pratiquement commencé la dernière partie de cette émission. Il s'agit de conclusion. Je vais vous demander, Vincent Caboa, de conclure.
Alors, je voudrais, par rapport à ma conclusion, c'est de dire le problème qui concerne l'impôt doit être intériorisé par tout le monde, doit être intériorisé par toutes les classes, doit être intériorisé par toute la population congolaise.
Honorable Baraki, il y a cet auditeur, hein, Stanley Donacimento, qui dit qu'il faudrait une très bonne application de la tolérance zéro.
Oui, mais la tolérance zéro, c'est devenu, c'est à la mode, mais il ne faut pas effectivement que ça reste un slogan. Hein. Je crois qu'il y a un changement de comportement qui doit s'observer dans les chefs des agents du fisc, on l'a dit ici. Dans le chef des opérateurs économiques, dans le chef des dirigeants, et en commençant bien sûr par le premier des citoyens qui a lancé cette campagne, son excellence Joseph Kabila Kabangé, et surtout son entourage, je pense que...
Donc il fait partie évidemment.
Entourage immédiat, non, moi je suis au Parlement. Mais je peux quand même aussi dire un mot quand j'ai l'occasion de le dire. Je ne manque pas de le faire. Mais je crois que ce qui est important, c'est qu'effectivement on puisse éveiller cette conscience pour que régulièrement les gens sachent que c'est un devoir de s'acquitter de son impôt.
Merci, honorable. Honorable Médard Lwakabwanga Mulangala, conclusion aussi.
Il y a un point sur lequel n'a pas beaucoup insisté, c'est le conflit de compétences entre la DGI et les régies provinciales qui ont été récemment mises sur pied. Cette question, on ne l'aborde pas de manière générale, on la résout au coup par coup. En termes de politique, ce n'est pas la bonne méthode. Je crois que le gouvernement serait bien inspiré si on pouvait, de manière globale et définitive, avoir suivi des conduites précises en la matière.
Merci.
Pour éviter que la conclusion ne s'installe. Et que le contribuable lui soit taxé deux fois par des services différents et d'une manière indue.
Merci honorable fin de cette émission. Merci à vous qui avez été des millions à nous suivre grâce à notre site internet radiocafé.net. Merci à Guy Maté, Kevin Couté, Samuel Sachac qui ont travaillé sous la supervision de Télé-Cité-là. Merci à Jean-Claude Ducciala et à Patricia Songwa qui ont assuré la partie technique. Au micro, Alain Hirung, restez branchés sur Radio Café. Oh,